France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives. Triste tropique, l'aventure humaine. Chapitre 6. Et nous dans tout ça. Depuis sa parution en 1955, Triste Tropique n'a jamais cessé d'être commenté, étudié, discuté. Le succès du livre a donné à Claude Lévi-Strauss une notoriété qui a très largement dépassé les cercles scientifiques. Pourtant, il ne s'est jamais senti totalement à l'aise avec ce livre. Il était au fond une personnalité pudique qui n'aimait pas se raconter ni se mettre en scène. Triste Tropique reste donc un accident génial dans la carrière d'un grand scientifique. Et Lévi-Strauss revient immédiatement après à des livres plus orthodoxes dans la forme, mais tout aussi révolutionnaires sur le fond. Ses grands textes comme « La pensée sauvage », « Le cycle de mythologique » dont font partie « Le cru et le cuit » ou encore « Le regard éloigné » sont des ouvrages dans lesquels Lévi-Strauss ne se risque plus à se mettre lui-même en scène. Ces livres sont donc moins accessibles aux lecteurs non initiés. Mais après tout, peu importe. Car depuis Triste Tropique, les lecteurs et les lectrices ont l'impression de le connaître un peu. Ils se sont familiarisés à ses idées et sensibilisés à son personnage. Sans le vouloir et sans concession sur la rigueur scientifique, Lévi-Strauss a donc fait œuvre de communication, voire de vulgarisation. C'est pour cette raison, à mon avis, que Triste Tropique est irremplaçable. Car ce livre a permis d'ouvrir des portes sur des idées qu'il aurait été plus difficile de comprendre avec un langage uniquement scientifique. En les incarnant, ces idées, Lévi-Strauss les a rapprochées de nous. Mais a-t-il pour autant réussi à nous influencer dans notre manière de voir le monde? Quel est l'impact de Lévi-Strauss sur le monde d'aujourd'hui? Quel est son héritage? C'est ce que nous allons voir au cours de ce dernier épisode. Après sa parution en 1955 donc, l'intérêt pour Triste Tropique a été régulièrement renouvelé et on en trouve des traces dans les archives. Exemple, en 1977, avec cette émission de France Culture intitulée « Matinée de l'inactuel ».
Mais d'ailleurs, il y a quelque chose de très émouvant en ce qui concerne la quatrième tribu visitée par Lévi-Strauss, celle des Tupi-Kawaib, car au moment où il y est allé en 1938 et 1940, eh bien justement, quand il est allé voir la tribu la plus reculée, celle dont, au fond, on lui avait simplement signalé l'existence, mais qu'aucun occidental était allé voir ou encore moins étudier, eh bien, il se dirige vers le village, et au milieu de la forêt, il rencontre la tribu qu'il va voir, qui avait quitté le village, et qui, au contraire, se rendait vers la civilisation, entre guillemets, parce qu'il ne s'agit pas de la civilisation de New York, il s'agit d'une petite ville de l'Amazone, d'un petit village de l'Amazone, pour s'y installer définitivement, pour quitter définitivement le campement dans la forêt. Comme si, au fond, ces sociétés elles-mêmes savaient qu'elles étaient destinées à périr.
C'est une étape, on oserait presque dire, nécessaire.
Nastasia Martin, vous êtes anthropologue et écrivaine, spécialiste notamment des mondes autochtones du Grand Nord subarctique. Que vous inspire cette première archive?
Alors, je dirais, ces sociétés aujourd'hui, en grande majorité, je pense qu'elles savent qu'elles ne sont pas destinées à périr.
Donc c'est un constat finalement plus optimiste qu'en 1977.
Oui, à l'heure actuelle, étant donné que nous avons poussé tous les curseurs de notre cosmologie naturaliste, extractiviste au bout, et qu'aujourd'hui, les métamorphoses environnementales et climatiques sont telles qu'elles sont en train de remettre en question la possibilité tout simplement qu'on a de survivre. Je pense qu'il y a, quand même, au sein de nos sociétés y compris, une intuition qui est en train de germer, qui est qu'il va très certainement falloir changer de carte de navigation pour survivre. D'où la nécessité de s'ouvrir à nouveau à ce que ces autres manières de faire monde racontent.
Est-ce qu'il reste aujourd'hui des sociétés humaines qui sont intactes, entre guillemets, de la contamination, pourrait-on dire, par la société moderne, par la société que vous dites extractiviste, capitaliste? Ça existe?
Bon, déjà, enfin, cette idée de la pureté et d'une société intacte, je ne sais pas si est-ce que ça n'a jamais existé. Je ne pense pas.
Toujours eu des mélanges, c'est ça.
Mais, bien évidemment, il y a toujours eu des hybridations, des rencontres, des guerres, etc. Bien avant que les Occidentaux arrivent, en l'occurrence sur le continent américain, les sociétés, les collectifs étaient déjà là dans toute leur diversité depuis des milliers d'années.
Donc il ne faut pas laisser, entre guillemets, tranquille les populations autochtones, c'est ça que
non,
vous dites?
Non, c'est pas du tout ça que je veux dire.
C'est ça qu'on pourrait entendre.
Non, absolument pas. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas la notion de pureté ou de société intacte qui fait la puissance de leur mode de relation au monde. C'est-à-dire que aujourd'hui, on sent encore plus qu'avant comment, notamment les cosmologies qu'on peut appeler animistes, sont des formes de réponse à la question de l'extractivisme occidental. C'est vraiment des manières politiques, cosmopolitiques, de répondre à des pratiques qui ne sont plus soutenables, qui sont nos pratiques.
Est-ce que c'était une idée de Lévi-Strauss aussi que de s'inspirer de ces populations, de ces collectifs, pour modifier notre manière de voir le monde?
Je pense que il y avait cette expression de Claude Lévi-Strauss qui était que je pense que pour lui le plus important c'était de résister à tout prix à la possibilité d'une humanité ossifiée. Il disait que le devoir sacré de l'humanité, c'était à la fois de se garder du particularisme aveugle qui tendrait à réserver le privilège de l'humanité à une seule société, et aussi de jamais oublier qu'aucune fraction de l'humanité ne dispose des formules applicables à l'ensemble. Droit que la modernité s'est largement arrogé depuis plusieurs centaines d'années, et sur lequel, là, j'ai l'impression, aujourd'hui plus que jamais, on est en train de revenir. C'est-à-dire, vraiment, cette question de la diversité, pas tellement du contenu, mais de l'écart différentiel entre les différentes cultures, qui tenait tant à cœur à Claude Lévi-Strauss, c'est vraiment là-dessus que de nombreuses voix autochtones sont en train de travailler à nouveau à partager ces écarts différentiels.
Le dernier chapitre de Triste Tropique s'intitule « Le retour ». Il y fait une sorte de bilan et se demande ce qui l'a poussé à entreprendre cette aventure. Pourquoi, par exemple, n'a-t-il pas observé sa propre société plutôt que celle des peuples éloignés ?
Qu'est-on venu faire ici ? Dans quel espoir ? À quelle fin ? Qu'est-ce au juste qu'une enquête ethnographique ? L'exercice normal d'une profession comme les autres ? Avec cette seule différence que le bureau ou le laboratoire sont séparés du domicile par quelques milliers de kilomètres. Ou la conséquence d'un choix plus radical, impliquant une mise en cause du système dans lequel on est né et où on a grandi. J'avais quitté la France depuis bientôt 5 ans. J'avais délaissé ma carrière universitaire. Pendant ce temps, mes condisciples plus sages en gravissaient les échelons. Ceux qui, comme moi jadis, avaient penché vers la politique, étaient aujourd'hui députés, bientôt ministres. Ou bien ma décision exprimait-elle une incompatibilité profonde vis-à-vis de mon groupe social, dont, quoi qu'il arrive, j'étais voué à vivre de plus en plus isolé.
Que vous inspire cette lecture, Anastasia Martin?
Oui, j'aurais pu prononcer, d'ailleurs je crois que je les ai prononcées, exactement les mêmes phrases. Je pense que à l'origine du désir de départ, du désir d'ailleurs, il y a vraiment ce sentiment d'incompatibilité au monde, à la société dans laquelle on est né. Finalement, il y a quand même, je pense, chez les ethnologues, une prédisposition à s'ouvrir à d'autres cosmologies qui est déjà là avant. Parce que, généralement, ils se sentent toujours déjà en amont du terrain, décalés par rapport au monde dans lequel ils sont. Et c'est ce décalage-là qui peut être très ancien, qui peut dater de l'enfance, qui peut ouvrir à ce destin de l'ethnologie, de l'anthropologie.
Et en même temps, ce que dit aussi Lévi-Strauss, c'est qu'il n'y a pas d'ailleurs et que les sociétés, ce n'est pas parce qu'elles sont lointaines qu'elles sont meilleur, il n'y a au fond pas de paradis terrestre. Et ça, c'est un peu triste et un petit peu déceptif aussi.
Oui, bah, d'où le titre « Triste tropique ». Mais c'est justement cette contradiction qu'il tient tout au long de son œuvre et que nous devons continuer de tenir. C'est-à-dire, non, il n'y a pas d'ailleurs et nous sommes dans un même monde et en même temps, si il y a des différences, si il y a d'autres manières de relier les êtres et entités entre eux et de comprendre ce qu'est ce monde, et si on ne fait pas de la place à ces autres manières, il va y avoir une réduction, c'est-à-dire, c'est ça qu'il veut dire par l'humanité ossifiée. C'est-à-dire que à la fin, il ne restera que quelques principes tellement réduits jusqu'à l'os que ça s'appellera la mort, finalement.
La personnalité de Claude Lévi-Strauss a sans doute été modifiée par les voyages qu'il a effectués. Sa vision du monde s'en est trouvée altérée, son regard s'est déplacé. C'est cette vision décentrée du monde qu'il nous a transmise à travers ses livres. Car si la société occidentale a modifié les conditions de vie des sociétés autochtones, les sociétés autochtones ont aussi influencé l'Occident. En écrivant « Triste tropique », Lévi-Strauss nous a apporté un regard nouveau sur les autres, mais aussi sur nous-mêmes. Les débats actuels, qu'ils soient écologiques ou décoloniaux, sont en effet nourris des travaux de Lévi-Strauss et du décentrement de son regard. On peut donc dire que les Bororo, les Kaduveo, les Nambikwara ou les Tupi-Kawaii sont en quelque sorte entrés dans nos vies. Grâce aux travaux de Lévi-Strauss, ces peuples de l'intérieur de la forêt amazonienne ont une influence sur nos débats de société, et cette idée n'est pas sans ironie. En fait, l'héritage de Triste Tropique va peut-être plus loin que ce que son auteur laisse compter. On le comprend en écoutant Pierre Nora le mettre au centre des plus grands bouleversements du XXe siècle dans cette archive de 2010.
Je crois que c'est un livre qui a été l'expression d'un moment très important de la prise de conscience occidentale du tiers-monde et qu'il est au croisement de deux grands phénomènes qui ne se comprennent que l'année même où Lévi-Strauss publie son livre, c'est-à-dire fin 55, début 56, qui, pour tout le monde, évoque un certain nombre de dates très importantes, c'est-à-dire le 20e congrès et la désacralisation du marxisme aux yeux de l'intelligence française, très engagée, comme vous savez, dans le Parti communiste, et aussi le Bandung, les débuts des neutralités, et la Hongrie, l'invasion, et aussi les débuts du sentiment de la croissance économique à partir des années 50, qui, après la guerre, a fait redécouvrir le monde, le grand monde, au tourisme, le début du grand tourisme international, et d'ailleurs, sans vouloir le rappeler directement là, ce sont les grands débuts du club méditerranéen, c'est-à-dire de l'ailleurs pour les gens, et Triste Tropique est arrivé à ce moment aussi des débuts de la guerre d'Algérie, c'est 54-56, c'est la mobilisation du contingent, et où on observe un immense basculement psychologique et mental du marxisme au tiers-mondisme, et un réinvestissement de ce que l'imagination avait mis dans le prolétaire, dans le primitif.
Mettre côte à côte Triste Tropique et le Club Méditerranée, à la fois c'est impensable, et pourtant le lien est là, c'est-à-dire que, en fait, dans cette grande découverte de l'ailleurs, les manières dont ça s'est ensuite incarné dans les modes de vie occidentaux, etc. Ça a été, c'est la question du tourisme récréatif. C'est la question des voyageurs et dont il se défendait lui-même dans la première page de Triste Tropique. Il critique très fortement ses écrits de voyage. Il dit qu'il ne fait pas ça. Mais malgré tout, et très certainement malgré lui, il y a quand même eu une instrumentalisation entre guillemets de cet ailleurs qui a produit des formes qui n'étaient pas celles qu'il attendait.
Est-ce que pour Claude Lévi-Strauss, la mondialisation, c'est la pire des choses qui pouvaient nous arriver dans la manière dont elle est arrivée finalement?
Je pense qu'il était beaucoup plus fin que ça. Il y a cette expression qu'il utilise de cercle infranchissable. Il dit que, c'est là tout le paradoxe, bien entendu, la mondialisation entraîne la destruction des écosystèmes et des collectifs qui vivent dans ces milieux, mais en même temps, moins les cultures humaines sont en mesure de communiquer et donc de se comprendre, moins les émissaires de ces cultures étaient capables de saisir la richesse et la signification de cette diversité. C'est là le paradoxe, c'est-à-dire que à la fois il y a un effet d'aplanissement et d'homogénéisation, et à la fois ce mouvement d'homogénéisation force les uns et les autres à se ressaisir chacun de ses puissances et à se remettre en dialogue. C'est quelque chose que je viens d'expérimenter là dernièrement au Brésil, où finalement vous avez des rencontres où vous vous retrouvez avec des Machacali, des Guarani, des Baniwa et des Uniquin. Personne ne parle la même langue et en même temps tout le monde est en train d'échanger sur ses mythes d'origine grâce au portugais.
Pour juger les autres, il faut d'abord les connaître et surtout faire l'effort de se mettre à leur place. C'est sans doute l'une des leçons de Claude Lévi-Strauss. Dans Triste Tropique, il explique par exemple que nous ne pouvons pas juger le cannibalisme selon les critères des Occidentaux. Il note par exemple que, quand nous disséquons des cadavres humains, nous ne sommes pas moins désinvoltes que quand une petite quantité de chair humaine est ingérée par un peuple d'Amazonie dans le cadre de rituels très codifiés. De la même façon, nos élevages intensifs, ainsi que la façon dont nous utilisons les animaux comme des laboratoires nutritifs, sont des sacrilèges pour bien des peuples autochtones qui respectent différemment le vivant. Pour eux, ces élevages intensifs sont bien plus choquants que le fait d'ingérer un peu de viande humaine. En 1993, Lévi-Strauss avait rédigé un article sur la vache folle pour le journal italien La Repubblica. Il y expliquait que le fait de donner des farines animales à des animaux revenait à forcer les vaches au cannibalisme. Pour lui, cette prise de conscience d'une forme de cannibalisme des sociétés modernes était loin d'être achevée. Je cite « Un jour viendra où l'idée que, pour se nourrir, les hommes du passé élevaient et massacraient des êtres vivants et exposaient complaisamment leur chair en lambeaux dans des vitrines inspirera sans doute la même répulsion qu'aux voyageurs du XVIe ou du XVIIe siècle les repas cannibales des sauvages américains, océaniens ou africains. » Nastasia Martin, une réaction sur ce sujet?
C'est ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas du tout à l'abri que l'intensification de nos modes de production de la modernité soit arrivée à un tel niveau d'impossibilité, c'est-à-dire que la ressource ne peut plus être la ressource puisque la ressource est épuisée, que le schème, pour reprendre le terme de Philippe Descola, s'inverse. Et que finalement, on arrive à des formes qui restaurent des formes plus animistes, entre guillemets, pour reprendre les termes d'Ailton Krenak. C'est pas aberrant de penser que le futur sera peut-être ancestral.
Est-ce que les ethnologues n'ont pas été, avant tout le monde, les premiers écologistes?
Je pense que c'est vrai. Et c'est vrai parce qu'ils sont à l'école de peuples qui, eux-mêmes, sont des écologistes. Qui ont réussi, au prix de toutes sortes de pratiques que nous jugeons superstitieuses et avec un peu de dédain, mais à se maintenir en équilibre avec le milieu naturel. Vous savez, quand parmi ces peuples que nous étudions, comme ceux d'Amérique du Sud et également du Nord, il existe des croyances en un maître des animaux, qui veille jalousement sur les procédés de chasse et dont on sait qu'il enverra des châtiments surnaturels à celui ou à ceux qui tueraient plus qu'il n'est strictement nécessaire. Quand, pour cueillir la moindre plante médicinale, il est nécessaire de faire d'abord des offrandes à l'esprit de cette plante. Eh bien, tout cela oblige à entretenir avec la nature des rapports mesurés.
Ce que peut-être nous apprend Claude Lévi-Strauss dans cette archive, Nastasia Martin, c'est que l'écologie, elle découle d'un rapport de croyance collective à la nature. C'est la façon dont on est organisé socialement qui indique notre rapport aux autres êtres vivants.
Alors, je répondrai à ça avec en empruntant les mots du regretté Bruno Latour, qui avait coutume de dire « le moderne, c'est celui qui croit que les autres croient ». C'est-à-dire, c'est cette idée que lui est informé par la rationalité scientifique, donc il ne croit pas, il sait. Mm-hmm. Néanmoins, les autres sont englués dans des formes de croyances qui, de fait, les obligent de mettre en place tout un tas de rituels pour renouer le dialogue avec les plantes, les animaux, les orages, les éclairs, que sais-je, qui prennent beaucoup de temps et qui, du coup, les empêchent d'être aussi efficaces que nous dans les manières qu'ils vont avoir de s'approprier, avec mille guillemets, la nature, enfin, ce que nous, en Occident, on appelle les ressources naturelles. Mais la grâce de l'anthropologie, c'est de nous montrer que c'est d'avoir, de s'être donné les moyens de relativiser cette rationalité scientifique qui, a priori, existait hors croyance. Or, aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le cas. C'est tout le travail de la symétrisation, de cette idée que tous les collectifs existent sur un plan horizontal et de manière symétrique, et qu'il n'y en a pas un qui est au-dessus des autres.
Donc cette idée de la mise en parallèle de tous les collectifs et de toute leur façon de fonctionner, et de mettre un signe égal entre tous ces collectifs, ce que faisait, me semble-t-il, Claude Lévi-Strauss, c'est quelque chose qu'on lui a reproché. L'idée d'un relativisme absolu, tout le monde n'était pas d'accord là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus, ou est-ce que...
Oui, mais c'est une problématique qui est toujours présente. Tout le monde n'est pas d'accord sur le fait que toutes les manières d'organiser le monde, nos rapports au monde, se valent. De fait, moi-même, aujourd'hui, je ne sais pas si je suis d'accord avec ça, parce que j'expérimente au quotidien notre trajectoire extractiviste mortifère qui est en train de nous amener dans le mur. Donc évidemment...
Donc vous faites vous-même une hiérarchie, mais simplement qui est l'inverse de la hiérarchie que les Occidentaux font d'habitude, puisqu'ils se placent évidemment au-dessus de la pyramide.
Oui, on peut dire ça, on peut dire ça.
Parcourir le monde permet de s'en rendre compte, toutes les sociétés tendent à se ressembler de plus en plus. Le voyage est moins une confrontation avec l'autre et l'ailleurs qu'une nouvelle facette de ce que l'on pourrait appeler une vaste monoculture. Cette perte de la diversité du monde, Lévi-Strauss l'a dénoncé déjà dans Triste Tropique.
Aujourd'hui, où des îles polynésiennes noyées de béton sont transformées en porte-avions pesamment ancrés au fond des mers du Sud, où l'Asie tout entière prend le visage d'une zone maladive, où les bidonvilles rongent l'Afrique, où l'aviation commerciale et militaire flétrit la candeur de la forêt américaine ou mélanésienne avant même d'en pouvoir détruire la virginité, comment la prétendue évasion du voyage pourrait-elle réussir autre chose que nous confronter aux formes les plus malheureuses de notre existence historique. Cette grande civilisation occidentale, créatrice des merveilles dont nous jouissons, elle n'a certes pas réussi à les produire sans contrepartie. Comme son œuvre la plus fameuse, pile où s'élaborent des architectures d'une complexité inconnue, l'ordre et l'harmonie de l'Occident exigent l'élimination d'une masse prodigieuse de sous-produits maléfiques dont la Terre est aujourd'hui infectée.
Alors là, quand il parle des sous-produits maléfiques de la civilisation occidentale, on comprend que dès 1955, quand il écrit ce livre, il a conscience de la pollution de la société de consommation, donc il voit quand même relativement loin.
Je voudrais dire deux choses. La première, c'est que oui, il voit très loin. Moi, je continue de travailler dans cette droite ligne de cette idée qu'en fait, les pratiques extractivistes actuelles qui produisent les pollutions qu'on connaît sont adossées à ce que j'appelle une économie de la peur. Une économie de la peur, c'est-à-dire un monde où l'idée qu'on se fait de la liberté, adossée à l'idée qu'on se fait de l'abondance, nécessite toujours plus de ressources pour construire toujours des murs plus gros pour nous isoler de ce qui pourrait nous déborder, nous brûler, nous souffler, nous dévorer, etc. Oui. Et cette poursuite de l'extractivisme adossée à cette terreur, cette peur, ok, cette peur d'être au contact, comme le sont les populations autochtones, qui n'ont jamais perdu ce contact, est en train de noircir le monde. C'est-à-dire la pollution produite. C'est pour ça que c'est important, comme disait Marshall Salins, de se rappeler que l'économie, elle émane de la cosmologie. Voilà. Donc, ces pollutions-là, on peut les comprendre comme vraiment l'incapacité de réduire les murs. En fait, réduire les murs, c'est-à-dire en finir avec cette nécessaire imperméabilité entre notre société et le monde extérieur.
Le 24 mai 1973, Claude Lévi-Strauss est élu à l'Académie française. Dans un reportage télévisé peu avant son discours d'intronisation, on le voit chez le tailleur qui essaye son costume d'académicien, noir, brodé de feuilles vert pomme. Presque gêné, il se dit cependant heureux de participer à ce rite.
Voici.
Je vous remercie.
Préparatif étrange et peut-être vain pour qui oublie leur signification.
Une des grandeurs, à mes yeux, de l'Académie française, c'est d'être une des rares institutions en France qui ait su conserver et préserver, et même à certains moments de son histoire, enrichir ou modifier un rituel. Parce que c'est quelque chose dont toute société a besoin pour subsister et pour se perpétuer. Et si vous voulez, une des raisons du respect que j'éprouve pour l'Académie, du plaisir, de la satisfaction que je peux éprouver à en faire partie, c'est de me dire que je suis un de ceux qui essayeront de conserver à la France un des très rares rituels qui n'ont pas encore succombé à toutes les entreprises de démolition qui se sont succédées au cours des siècles.
Plus loin dans ce document, Lévi-Strauss ajoute « Je ne vois pas pourquoi je trouverais dérisoire dans ma société ce qui me passionne dans les sociétés différentes. » Et plus loin encore, c'est en plus l'une des rares occasions où dans notre civilisation, un homme peut s'habiller comme une femme. Nastasia Martin, qu'est-ce que ça vous inspire pour terminer ?
Oui, je pense que ce qui lui plaisait, c'était évidemment l'aspect du rituel, très certainement plus que celui de la conservation. Je voudrais partager une toute petite anecdote qui est relatée dans Anthropologie structurale 2. En 1965, un journaliste du Figaro demande à diverses personnes, dont Claude Lévi-Strauss, ce qu'il garderait, ce qu'il conserverait des productions littéraires, artistiques des 20 dernières années. Pour les offrir aux générations futures, s'il pouvait les placer dans 25 cases différentes et les enterrer dans un coffre enfoui sous Paris, à destination des archéologues de l'an 3000. Et Claude Lévi-Strauss répond, je cite, « Rien de ce que nous avons créé ces 20 dernières années ne mérite de survivre un millénaire. Il serait présomptueux et vain de signaler à l'intention de nos lointains interlocuteurs des théories scientifiques qu'ils jugeraient périmées. Mieux vaut leur laisser quelques témoignages sur des choses que, par notre malfaisance et celle de nos continuateurs, nous n'aurons plus le droit de connaître. La pureté de l'air, la diversité des êtres, la grâce de la nature » et la décence des hommes. Et la décence des hommes. Je pense que cette phrase est très, très actuelle.
On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part. Être né quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard.
Triste Tropique se lit comme un roman. Un roman dont le sujet serait ni plus ni moins que l'histoire de l'humanité. Mais il est aussi l'histoire du rapport que l'être humain entretient avec le monde. Et enfin, une histoire de la mondialisation qui met aux prises des cultures différentes et qui conduit les plus efficaces technologiquement à effacer ou minorer les autres. Avec son livre « Monde », cet ouvrage énorme qui a bouleversé tant de choses, Claude Lévi-Strauss a su montrer cela.
Lorsque les hommes commencent à se sentir à l'étroit dans leurs espaces géographiques, sociaux et mentaux, une solution simple risque de les séduire. Celle qui consiste à refuser la qualité humaine à une partie de l'espèce.
C'était Triste Tropique, l'aventure humaine, une série de Mathieu Garrigou-Lagrange réalisée par Xavier Joly, chargée de programme Anne-Vanessa Prévost, attachée de production Lily Cornaer, prise de son Manon Houssin, mixage Timothée Hubert, documentation musicale Antoine Vuillose.